Il est 19h, vous êtes sur Occitanie Première. Bonsoir tout le monde, restez avec nous, c'est parti pour une heure d'OxyFoot, votre rendez-vous de football en Occitanie. Je suis Quentin Marais et c'est un vrai plaisir que de vous retrouver pour cette 15e édition. Et oui, 15 déjà, et on démarre la semaine ensemble comme d'habitude. Et ce sont deux nouvelles personnes qui sont là pour m'accompagner du côté de Footpi. C'est une quatrième carte qui est dégainée, il n'est jamais venu, c'est sa première pour lui ce soir, c'est Fabien Calabresi. Salut Fabien.
Salut Quentin.
Comment ça va?
Bah très bien, un petit peu de stress comme normal, je pense, pour une première, mais ça va bien se passer.
Ça va bien, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Et à ma droite, on ne le présente plus, tant par son parcours sur le terrain que sur le banc. Il dirige actuellement les Pitchouns, les 19 du TFC, c'est Jean-Christophe Debut. Salut Jean-Christophe.
Bonsoir Quentin.
Comment ça va?
Ça va, très bien.
Bon, très bien, pour démarrer cette semaine ensemble. Messieurs, laissez-moi vous présenter un petit peu le programme. Alors, on va faire un petit point sur les résultats avec Fabien avant de faire une interview de Jean-Christophe. Une interview sérieuse et puis un petit peu plus décalée ensuite, avant le fameux quiz. Vous avez révisé, messieurs?
Un petit peu, mais bon, on va dire
comment. J'ai pas entendu.
Est-ce que vous avez révisé le quiz?
Ah non.
Le fameux quiz, non?
Non.
Attention,
non.
Parce que vous savez qu'on a un spécialiste, Xavier Bedos, je pense qu'il nous écoute, qui nous dit toujours qu'il n'a pas révisé. Et il rafale tous les quiz. Tous les quiz, il les prend. Ils sont pour lui, donc.
D'accord.
On verra, Jean-Christophe, si dans 50 minutes, on verra comment ça se passera. Messieurs, eh bien, on peut commencer tout de suite avec les résultats. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end en Occitanie, Fabien?
On a eu pas mal de matchs quand même, en tout cas au niveau des régionaux, puisque pour une fois, les conditions nous ont laissé un petit peu tranquilles. Et surtout, je vais commencer par contre par les nationaux, puisqu'on a eu la Coupe Nationale Futsal qui était hyper importante, notamment un derby, avec le Toulouse Métropole Futsal qui a battu Plaisance All-Star, une équipe de D2, 4-3. Et de l'autre côté, on a eu aussi l'UJS qui a perdu en fait 4-1 à Toulon. Donc malheureusement, il ne nous reste donc plus qu'un représentant pour les huitièmes de finale. Ensuite, on a Rodez qui a gagné, enfin, qui est renoué avec le succès en National, 1-0 contre Entente Soignan-Saint-Gratien. En National 2, Tarbes a fait un match nul contre Poyan-Pézenas, qui a un bon résultat car ils sont en fin de classement, mais une victoire était mieux quand même face à un adversaire direct. Tandis que Colomiers a pris un bon point à Martigues, une grosse équipe de la poule, donc ce qui permet à Colomiers de rester quand même au haut du tableau. En National 3, on a Rodéo, qui a perdu face à Nîmes 2-1, malgré un bon match. On pourrait lire d'ailleurs l'article sur Footpi de WH. L'Uznac de ce comté a gagné 3-1 contre Agde, donc c'est un bon résultat, puisque ça leur permet de remonter un petit peu au classement grâce à cette belle victoire lors d'un match en retard. Donc là, on va passer au niveau régional, avec les résultats de la régionale 1, et avec une victoire de Muret qui conforte sa place de leader face à Golfech 1-0, puisque dans le même temps, Rodez 2 a concédé le match nul face au TMFC 1-1. Pour le reste des équipes, Hoche a battu Lourdes 3-0, Aussonne a fait 3-3 face à Fleurance, le Giroux s'est incliné face à Luc Laprimaube 2-1, Albi et Pradine ont match nul 1-1, tout comme Revel et Honnête 2-2, match nul. Au niveau régional 2, nous avons la victoire surprise de Tarbes 2 à l'Union, Union qui était invaincue à domicile et qui était leader de la poule, 2-1. Le nouveau leader finalement, c'est Pibrac, si je ne me trompe pas, puisque Cazer s'est incliné également 2-0 à domicile face à Hoche 2, ce qui est également une surprise. Pibrac, lui, s'est imposé 3-1 à Pamiers. Dans les autres résultats, Foy s'est imposé à Blagnac 2-0. Juillan s'est imposé lors du derby au Pyrénéen à Sémillac 3-1. D'ailleurs, il faut préciser qu'il y a eu quelques petits cartons rouges, moins qu'à l'aller, mais quelques-uns quand même encore. C'est normal lors d'un derby, on va dire, plus ou moins. Et Fonsorbe s'est imposé à Seyss-Frouzens 3-2 dans un match de la peur entre deux équipes qui étaient en mal de points. Dans la poule B, les deux leaders se sont imposés. Colomiers 2, qui est encore invaincu depuis le début de l'année et qui s'impose contre Saint-Jean 4-1, alors que Portet s'est imposé 2-0 face à Montauban. Dans le même temps, Saint-Aurens a battu Albi dans un match hyper important pour le maintien et Saint-Aurens donc prend des points importants face à la Lanterne Rouge. Tandis que le TMFC et Rodez 3 ont fait match 0-0 et Grisol et Saint-Alban 1-1. En Régional 3, le leader Rodéo 2 s'est imposé 3-1 au Pradette, alors que dans le même temps, hier après-midi, Saint-Simon a concédé le nul face à Orlex 1-1. Lourdes 2 a battu le Fossat 3-2. Carbone s'est imposé à la Barthe 3-0. Et Muret 2 a gagné 2-0 contre Salisman. Dans la poule B, le leader Castanet 2 s'est imposé assez largement face à Gag 3-0 en deuxième mi-temps. D'ailleurs, c'est pareil que pour WH, là, ce coup-ci, c'est Dédé qui a été faire le résumé de cette rencontre. Donc vous pourrez lire sur le site footpi.fr. Ensuite, Fenouillet s'est incliné 4 à 2 face à Castelginest. Lille-Andodon s'est imposé à Montauban 2, 5 à 2. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, on a un gros match qui nous attend dans cette poule. C'est Lille-Andodon face à Castanet 2. Ça va être un gros choc de cette poule. Bazièges s'est imposé 2 à 1 à Aurignac. Gimont et Launaguet, 2 buts partout. Et Boulogne-Péguillan s'est imposé 4 à 2 face au Mirail. D'ailleurs, une petite dédicace au double buteur Arnaud Barbe, alias Thierry Henry pour Footpi. Dans la poule C, Druel s'est imposé 3 à 2 face à Luc Primaube 2, ce qui leur permet de recoller à la tête, puisque Castelnau d'Estrettefonds a fait un match nul face au Bassin d'Aveyron 0 à 0, tandis que Cahors, lui, s'est imposé face à la Juventus Papus 1 à 0. Bozel, lui, qui continue à prendre des points et qui continue à remonter au classement, malgré son nul 1 but partout à Figeac. Blagnac 3 enchaîne les victoires à l'extérieur et s'impose à Ségala 1 à 0. Et Tournefeuille 2 s'impose face à Rignac 1 à 0. Dans la poule D, le leader, Marsac a fait un nul 1 but partout à Castres et Castres, l'autre leader, a fait un match nul face à Mazamet, 1 but partout également. Dans le même temps, Balma 2 poursuit sa série de belles victoires en battant Villefranche-de-Rouergue 2-1. Saint-Juéry et Colomiers 3 ont fait match nul 2 buts partout. Saint-Georges montre qu'il n'est pas mort en s'imposant 3-1 à Aunay-le-Château 2, tandis que Sébazac et Sévrac-le-Château se sont séparés sur un 0-0. En promotion de ligue, Oadour et Saint-Gaudens se sont imposés. Oadour a gagné 2-0 à domicile face à Fleurance. Saint-Gaudens 4-2 à Vic-Fezensac. Lavernoz a battu Luspierre-Fitte 1-0. L'Elpi Sainte-Gabelle 0-0. Mabrock contre Saint-Jean-du-Felgat 0-0. Et l'Uznac de Mazères a été arrêté suite à un carton rouge supposé, je crois, d'un joueur de Mazères. Mais vous en saurez plus sur le site dans les prochaines heures. Ah oui, pardon. Excusez-moi. L'Île Jourdain, donc ça c'est pour la poule B, l'Île Jourdain-Ramonville a été reportée. Seyss-Frouzens a remporté son premier match dans l'année 1-0 à Nest. Prégnan s'est imposé 2-1 à Souès. Orient et Masse-Grenier ont fait un but partout. Lauragais, Argelès, un but partout également, alors que Beaumont-de-Lomagne s'est imposé à Villeneuve-de-Rivière 3-1. Dans la poule C, Confluence-Saint-Sulpice a été reporté, mais le leader Plaisance a été freiné par Vignoble 81, 2 buts partout, ce qui permet à Pavie de recoller un petit peu avec ses matchs en retard, puisqu'ils ont gagné au TAC 2-1. Bressol s'impose 4-1 à Portée 2. Salisman 2 remporte 2-1 son match face à Aignan. Et Lavore font sort 2, 0-0. Dans la poule D, l'Allemagne Foot Vallon a été reporté. Marsac 2 s'incline face à la Française 2-0. Pouvourville, le leader, a été tenu en échec par Mozac 0-0. Mondonville s'incline face à Barouère 4-3. Girosens s'incline également à domicile face à Cabenac 2-1. Alors que Pradine 2 et Valrock se sont séparés sur le match nul de 1 but partout. Dans la poule E, le réveil du TOAC se poursuit avec cette belle victoire face à Marie-Valois 5-1. Le Giroud, lui, a mis une manita à Carmo 5-0. L'Espoir Foot gagne 1-0 à Cambounet. Dourgne bat puis l'Évêque 3-0. Olympes se réveille un petit peu et bat la SPTT Albi 2-0. Tandis que le leader Biarritz Bretenou continue son cavalier seul en s'imposant 7-2 face à Groulet Benfica. Et enfin, dans la poule F, Saint-Alban 2 et Nocelles. Saint-Alban 2 s'impose 1-0. Grouillet s'impose 2-0 à Revel 2. Le TMFC 3 gagne contre Aguessac 2-0. Millau bat Seix-et-Malins 4-0. Le Monastère bat l'Inter FC 2-1. Et La Bruguière perd 3-2 à domicile face à Copain d'abord. Passons maintenant aux U19 régionaux. Alors, il y a eu la journée seulement des U19 régionaux, puisque les U17, nous en parlons juste un petit peu après en Coupe d'Occitanie. Le leader, c'est maintenant Colomiers 2. Qui a gagné à Marie-Valois 6-2. Marie-Valois n'a pas pu réaliser sa même performance que contre Muret la semaine précédente. Castanet s'est imposé à Aunay-le-Château 1-0. Rodez a fait un match nul à Tournefeuille, 2 buts partout. Muret, justement, a concédé le match nul à Blagnac, 1 but partout. Balma continue sa remontée et pourrait titiller les leaders très prochainement en s'imposant 3-2 face à Albi, tandis que Cugno s'est imposé à Pays-Bas-Ariège 2-0. Pour les féminines, deux matchs en retard ce week-end. Prégnan qui a battu Muret 3-1 et Eone qui a perdu 4-2 face à la SPTT Albi 2. En Coupe d'Occitanie, c'était la dernière journée des tours de classement avant la phase finale. On a les résultats. Donc, Onet-le-Château s'impose 7-0 à Nègrepelisse. Castres s'impose 1-0 face à Figeac. Dans le groupe B, Albi gagne 3-0 à Luc Primaube. Rodez bat 6-0 Cahors. Tarbes bat Auch 5-0 dans la poule C, tandis que Montauban gagne 2-0 au Pyrénées Sud Comminges. Dans la poule D, Orlex bat Nord-Lomagne 3-0, tandis que Saint-Orens a créé la petite surprise du week-end en gagnant face au TMFC au tir au but, 5 tirs au but à 4 après avoir fait 2 buts partout lors du match. Dans le groupe E, Garonne-Salat s'est imposé face à Bagatelle 2-1, tandis que Castanet a battu Pamiers 4-1. Et dans la poule F, enfin, Balma 2 s'est imposé face à Pays-Bas-Ariège 8-0. Il faut rappeler que Balma 2 est la réserve des U17 nationaux de Balma. Tandis que Colomiers s'est imposé à Blagnac 2-0, ce qui permet à Figeac de passer ce tour, puisque par rapport à l'effet des classements, c'est ce qui s'est passé. Et enfin, pour les U15, c'est également la troisième journée de cette Coupe d'Occitanie. Dans la poule A, Cahors s'est imposé à Luc Primaube 1-0. Montauban et Albi, un but partout, mais c'est Albi qui s'est imposé au tir au but, 5 tirs au but à 4. Rodez a gagné son match 15-0 face à Saint-Sulpice dans la poule B, tandis que Castres et Malauz ont fait match nul, un but partout. Dans la poule C, Balma s'est imposé à Colomiers 3-1, alors que Tarbes s'est imposé 10-0 face à Gimont. Dans la poule D, Auch s'est incliné face à Blagnac 1-0, tandis que le TFC s'est imposé 2-1 face à Lourdes. Groupe E, Seyss-Frouzens s'est imposé à Mirepoix 7-2, tandis que, ça c'est aussi le petit exploit du week-end, Savé-Garonne, qui est du district de Haute-Garonne, a battu Pamiers, club d'honneur, 3-1. Et dans le groupe F, Muret a battu Cugnot 3-1, tandis que Saint-Gaudens a battu Nest 4-0.
Merci Fabien pour ce point très complet sur les résultats ce week-end. Jean-Christophe, à nous. Vous avez 53 ans, vous êtes né à Dreux, en Eure-et-Loire, je ne me trompe pas ?
Non, c'est ça.
Alors en tant que joueur, parce que avant d'être sur le banc, vous avez été sur le terrain, vous êtes passé par le Racing Colombes, le TFC, Bastia, Blagnac, Castelnaudary. Qu'est-ce que vous évoque ce parcours ?
Ce parcours, qu'est-ce qu'il peut m'évoquer ? Déjà, il est assez lointain, ce parcours. Le fait d'avoir été professionnel et d'évoluer au plus haut niveau, c'était quelque chose de très important pour moi. Voilà, j'ai passé, puisque j'ai fait 12 ans professionnel, 12 années extraordinaires, même si j'aurais voulu peut-être avoir des résultats plus probants, mais bon, déjà, le fait d'avoir été professionnel et toujours en première division, c'est des choses inoubliables.
Alors, est-ce qu'il y a un passage ou un club qui vous a plus marqué qu'un autre en tant que joueur ? Peut-être les années TFC ?
Non, les trois clubs que j'ai pu faire en pro, j'ai débuté au PFC, ensuite il y a eu la fusion, quand j'étais à Paris à l'époque, il y a eu la fusion Racing Club de France avec le Paris Football Club, ce qui est devenu le Racing Parisien, donc j'ai intégré ce club-là au niveau de la formation, et j'ai fait mes 2 ans de formation et 4 ans professionnel, ensuite j'ai fait 5 ans à Toulouse, et 2 ans à Bastia, donc je garde un bon souvenir des 3 clubs où je suis passé. Malheureusement, au Racing à l'époque, ça s'est fini un peu en cul de boudin, comme on dit, ou je sais pas comment on peut dire, puisque le club, quand je suis parti, le club a arrêté, et c'était Jean-Luc Lagardère qui était le président du club, et donc le club a été dissous. Donc voilà, c'est le seul regret que j'ai. Après, non, je garde un bon souvenir des clubs où je suis passé. Voilà.
Alors, vous étiez latéral gauche, Jean-Christophe. Comment est-ce que vous jugez l'évolution du rôle de ce poste ? Parce qu'on entend souvent dire voilà, qu'un latéral doit beaucoup apporter offensivement. Je me rappelle dernièrement, la parenthèse m'a fait rire, c'est Jordan Amavi, le latéral de l'OM, qui avait dit ce que je dois travailler, c'est mieux défendre, alors que c'est un défenseur finalement. Comment est-ce que vous jugez, vous, l'évolution de ce poste, qui est quand même toujours particulier dans le foot à 11 ?
Déjà, j'ai joué aussi bien latéral droit que latéral gauche parce que voilà, je suis droitier. Et l'évolution, oui, elle s'est faite plus sur le côté offensif. À l'époque, quand j'ai commencé à jouer, on était plus dans la responsabilité, dans le duel, dans le 1 contre 1. Donc, on devait quand même défendre un peu plus qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui les latéraux défendent, mais on était moins actifs dans les couloirs pour participer au jeu. J'ai connu des entraîneurs qui nous interdisaient de passer la ligne médiane. Donc c'est-à-dire que on était vraiment dans un domaine très 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 défensif. Voilà, ce qui a changé. Et puis cela, nous on était beaucoup dans l'individuel, c'est-à-dire qu'on avait un joueur dans notre zone au marquage et presque on le suivait sur tout le terrain. Voilà, donc c'était l'évolution du latéral a s'est portée là-dessus, a s'est déjà portée sous du fait que dans les années 90 a été instaurée la zone, c'est-à-dire qu'avant on était dans l'individuel au poste pour poste. Là, il y a eu la zone qui a été mise en place dans les années 90. Donc ça a un peu déresponsabilisé les latéraux sur le plan défensif et ça leur a permis de participer un peu plus au jeu offensif. Voilà.
Alors c'est à Castelnaudary pour le coup que vous finissez votre carrière de joueur et entamez celle d'entraîneur, c'est bien ça ?
Voilà, c'est ça. Après Bastia, j'ai joué 2 ans et demi à Blagnac. Comme je suis revenu dans la région, j'en ai profité pour passer mes diplômes d'entraîneur et j'avais toujours envie de jouer. Donc j'ai fini à Blagnac jusqu'à 36 ans en CFA2. Ensuite, je suis parti à Castelnaudary, toujours entraîneur-joueur. Voilà. Donc j'ai joué jusqu'à 38 ans, 38 ans jusqu'au niveau régional. Voilà. Et puis après, mon corps ne suivait plus trop. Donc j'ai commencé à entraîner des clubs de la région, et, Colomiers. J'ai entraîné les jeunes aux Fontaines pendant 3 saisons, Balma. Et puis en 2012, j'ai intégré le centre de formation du TFC. Voilà, donc ça fait déjà 6 ans et il me reste encore 1 an de contrat, donc voilà, je vais faire déjà 7 ans au TFC. Voilà, c'est une très bonne expérience.
Devenir coach, Jean-Christophe, c'était la suite logique des choses ?
Non, pas spécialement au départ, parce que j'avais le désir de jouer le plus longtemps possible. Après, on avait à l'époque un suivi, notre reconversion, la reconversion était peut-être moins définie que ce que peuvent faire les joueurs aujourd'hui. Donc, moi, j'avais pas préparé spécialement quelque chose à la fin de ma carrière. Donc après, c'est vrai que le fait d'être entraîneur-joueur à Castelnaudary, ça m'a permis de continuer à jouer. C'était ma passion, mais aussi de prendre goût en tant qu'éducateur et au coaching. Et c'est comme ça que c'est devenu une passion plus accrue par la suite, voilà. Et c'est vrai que en faisant mes gammes dans les clubs amateurs, ça a permis d'intégrer le TFC avec de meilleures bases, on va dire. Voilà.
Alors c'est une question qu'on n'a pas souvent posée, mais est-ce que le Jean-Christophe Debut version coach est le même que le Jean-Christophe Debut version joueur, on va dire, en termes de tempérament ? Est-ce que vous étiez plus calme sur le terrain que sur le banc, ou est-ce qu'il n'y a pas eu de changement en fait ?
Non, je suis quelqu'un de, en tant que joueur. J'étais quelqu'un d'assez, déjà ma personne, je suis assez introverti. J'étais timide par moments. Mais sur le terrain, c'était différent. Voilà. Donc, j'avais une autre personnalité, on va dire. En tant qu'entraîneur, c'est la même chose. Je suis quelqu'un d'assez patient, mais, je suis peut-être aussi impulsif. Je ne sais pas, Fabien qui vient au match me voit évoluer au bord du terrain. Bon, c'est vrai qu'avec les jeunes, on est obligé aussi d'avoir une pédagogie adapté et de faire passer un bon message, donc on peut pas faire n'importe quoi non plus. Mais je suis combattant comme j'étais sur le terrain, donc j'essaie de faire passer un message de ce côté-là aux jeunes que j'entraîne au bord du terrain. Voilà, je suis pas passif, je suis assez actif au bord du terrain, on va dire.
Justement, par rapport à ça, c'est vrai que je vous ai assez vu par rapport à plusieurs matchs, et c'est vrai qu'à certains matchs, c'est vrai que vous pouvez pousser votre gueulante aussi, sur certains joueurs parfois. Je me souviens des exemples avec Quentin Boigard, par exemple, pour des fois de certains replacements ou pour d'autres joueurs.
Oui. C'est après, tout dépend de la circonstance, tout dépend du scénario du match, tout dépend des joueurs. On est dans des objectifs de résultats, certes, mais on est aussi de formation. Donc, des fois, les joueurs, quand ils ne comprennent pas, quand ils n'écoutent pas, ou, voilà, il faut savoir à un moment donné, entre guillemets, gueuler un peu fort pour pouvoir être entendu et être écouté. Voilà.
Alors, vous avez parlé justement de votre relation avec les jeunes, et vous avez aussi entraîné des seniors, pour le coup. Alors, quel type de groupe est le plus facile à prendre en main, selon vous ?
Quel type c'est différent. Alors déjà, les jeunes, bon, je les avais entraînés dans un club amateur aux Fontaines. C'est différent parce que avec les seniors, déjà, on est vraiment dans la compétition à 200%. Alors, c'est vrai qu'on a une relation plus d'hommes entre guillemets avec les seniors, même si tous les clubs où je suis passé, les seniors, c'était des joueurs de 20 ans à 25 ans. Bon, il y avait des plus âgés, donc ça reste quand même assez jeune. Après, la relation qu'on peut avoir dans un centre de formation, elle est différente parce que j'ai vraiment affaire à des ados. Donc, c'est une période assez délicate déjà pour eux. Mais ce qui change, c'est bien sûr le public qu'on peut encadrer, mais c'est surtout la pédagogie qu'on met en place pour les former, les emmener au plus haut niveau. Voilà. Donc on est beaucoup moins... Moi, je pars du principe que le week-end, on est entraîneur, éducateur, entraîneur, mais dès le lundi, on devient formateur jusqu'au jeudi ou jusqu'au vendredi. Donc c'est une autre démarche, une autre approche avec le joueur. On est beaucoup axé sur la formation du joueur, sur son évolution. On se sert de la compétition pour l'évaluer aussi. Mais le monde des seniors, comme j'ai pu le connaître, est différent, voilà, vraiment différent.
Alors les trois saisons à Balma, Jean-Christophe, elles sont pour vous l'occasion de constituer un tandem avec un certain Jean-Pierre Filliol. C'est une collaboration gagnante, notamment lors de votre première saison, où vous parvenez à arracher le maintien en CFA. Un bon souvenir là aussi.
Oui, c'était une volonté de Jean-Pierre à l'époque que je puisse travailler avec lui. Après, c'est pareil, ça s'est pas très bien fini parce que la première année, on s'est maintenu. La deuxième saison, Jean-Pierre a été démis de ses fonctions. Et comme j'avais le diplôme, le club m'a proposé de reprendre l'équipe. Donc voilà. C'est vrai que je l'ai côtoyé. J'ai côtoyé Jean-Pierre à Colomiers pendant une saison aussi. Et puis on s'est retrouvé à Balma. Voilà. On aurait aimé peut-être que ça se finisse un peu mieux entre tous les deux. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie du football.
Peut-être de retour ensemble dans les prochaines années, peut-être, pourquoi pas ?
Je ne sais pas. Moi, je, pour l'instant, je suis au TFC, je suis bien au TFC. Je ne sais pas si je vais pouvoir, si je vais entraîner jusqu'à 65 ans déjà. Donc je profite des moments qui m'arrivent aujourd'hui en étant au TFC. Voilà. Mais pourquoi pas, on ne sait jamais, le football.
Et un retour avec les seniors est-il envisageable par la suite ? Parce qu'on peut le voir avec Mickaël Debeuf qui est passé de la réserve, avec les jeunes qui est passé de la réserve, maintenant en pro. Est-ce que pour vous, le retour en senior est-il envisageable par la suite ?
Oui, tout dépend. Enfin, aujourd'hui, moi je suis au TFC depuis 6 années. Je me plais bien dans ce que je fais, dans ce rôle de formateur. Donc si ça pouvait durer le plus longtemps possible, ce serait une bonne chose pour moi. Après, comme je dis, on ne sait jamais tout ce qui peut se passer dans le football. Voilà, on peut revenir, passer le palier, revenir, prendre une équipe en senior. Je ne sais pas. Aujourd'hui, je profite pleinement de ce qui m'arrive et d'où je suis.
Voilà. Alors, pour retracer votre parcours au TFC, Jean-Christophe, de 2012 à 2015, vous coachez les 19 avant de passer 2 ans avec la CFA2. Et donc, depuis 2017, vous êtes de retour avec les moins de 19 ans. Comment est-ce que vous avez appréhendé cette alternance ?
Oh, l'alternance, c'est le week-end, le week-end entre les 19 ans et la CFA2, ça se passait que le week-end, parce que au TFC on a un groupe élite qui est constitué de joueurs 19 ans et de joueurs de la CFA2, donc ça me changeait pas grand-chose. Simplement, c'est qu'au bout de 3 ans, quand il y a eu le changement que Mika Debev est passé chez les professionnels et que Fabrice Garrigue est devenu responsable technique de la formation. J'ai côtoyé pendant 3 saisons 2 générations, les 97 et les 96, en 19 ans. Donc le club a voulu qu'il y ait une logique aussi de les accompagner jusqu'en... avec la N3, ou avec la N3, la CFA2, voilà. Donc j'ai accepté. Mais la première saison s'est très bien passée. Quand je parle de génération 97, c'est Lissa Diop, Quentin Boigard, Clément Michelin et Kéké Amiens. Donc, et la saison dernière, beaucoup moins bien passée, puisque voilà, je suis tombé sur une génération. Déjà, j'ai joué très jeune, on a eu des problèmes d'effectifs. Mais bon, peu importe du moment que le maintien a été acquis, c'était l'essentiel. Mais après, non, mon retour en 19 ans s'est très bien passé, puisque le club a fait venir Denis Zanko en tant que responsable technique de la formation. Et Denis voulait entraîner la réserve. Donc, quand le club m'a proposé de revenir avec les 19 ans, je n'ai eu aucun problème à revenir avec cette catégorie. Voilà.
Alors, ça fait plusieurs saisons du coup, que vous encadrez des jeunes de centres de formation. Il y a un sujet qui fait souvent débat dans notre pays, c'est la mentalité. On critique souvent la mentalité à la française. Qu'est-ce que vous auriez à dire à ce sujet au TFC ? Est-ce que bah, déjà vous avez perçu une différence depuis 2012 ou est-ce que vous n'avez rien à reprocher finalement ?
Non, les mentalités évoluent. Après, aujourd'hui, les joueurs très jeunes, ils sont déjà encadrés avec des agents. Donc, ils sont ambitieux, très jeunes. Ils veulent avoir tout de suite. Donc les mentalités changent par rapport à ça. Après, au niveau comportement, discipline, il n'y a aucun problème. L'évolution, enfin, depuis 5 ans ou 6 ans maintenant, j'ai pas vu des choses négatives par rapport à ça. La seule chose que je vous ai dit, c'est que dès 16 ans, dès la sortie de la préfo, après leur première saison en 16 ans nationaux, 17 ans nationaux, les joueurs veulent tout intégrer rapidement le haut niveau et il manque de patience. Par moment, on n'est plus du tout dans le mérite aussi, voilà, parce qu'il y a des agents qui poussent à faire signer des jeunes rapidement professionnels sans avoir prouvé. Donc voilà, l'évolution a se fait là et dans les années à venir, vous verrez, déjà ils sont en train d'en parler, c'est que dès 16 ans, les joueurs signeront professionnels. Ouais, il n'y aura plus de contrat stagiaire, c'est en pourparlers. Et parce que déjà pour protéger les joueurs, pour permettre aux joueurs de rester au club et de ne plus être sollicités par d'autres clubs professionnels. Donc les mentalités, il va falloir gérer des jeunes professionnels rapidement. Voilà. Donc les mentalités risquent de changer par rapport à ça.
Et puis on a l'AS Monaco qui a recruté un jeune de 16 ans il n'y a pas longtemps pour 1 million d'euros. Justement, le fait que la donnée financière rentre si prématurément en compte, ça peut devenir néfaste selon vous ?
Oui, bah oui, parce qu'il y a enfin, ce que j'ai pu remarquer par rapport à quand je suis arrivé au TFC, même si je n'étais pas au TFC à l'époque, j'entendais parler de ce qui se passait au niveau de l'état d'esprit et des mentalités. Bon, le changement, il vient là. C'est que très jeune, les joueurs sont sollicités, ils sont amenés à signer des contrats rapidement, avec bien sûr des sommes de fois qui sont voilà, astronomiques pour des jeunes joueurs. Donc voilà, il va falloir. Enfin, nous, de notre côté, en tant que coach, il va falloir qu'on s'habitue à ce genre de. Prendre en compte ces paramètres et ce changement de mentalité par rapport à ça. Voilà.
C'est difficile de faire abstraction ?
Non, parce que, enfin, difficile. Après c'est une image qu'on donne aujourd'hui au niveau des jeunes, au niveau du football. Mais après, le terrain reprend ses droits. Voilà, aussitôt qu'il y a les séances d'entraînement et les matchs qui arrivent le week-end, le terrain reprend vraiment ses droits. Donc c'est quand même que le football reste le football. Voilà.
Belle transition, Jean-Christophe, justement, parce que sur le terrain, ça se passe plutôt bien cette saison. Vous êtes second du championnat national, bon, 10 points derrière Montpellier, qui semble être le leader intouchable, mais pour l'instant, vos 19, ils rendent une belle copie.
Oui, oui. Oui, on fait un bon championnat. C'est vrai que Montpellier est intouchable, a fait pratiquement un sans faute. Tout le monde pensait qu'à un moment donné, ils allaient laisser des points en route. Et puis non, c'est une équipe solide. Bon, on les a joué en championnat, on a fait 3 partout. On les a battus en gambarde après avoir fait match nul un partout. Donc c'est vraiment une équipe compétitive et qui mérite sa place de leader aujourd'hui. Nous, de notre côté, on est toujours dans une logique de formation, certes, mais on essaye de donner une bonne image par rapport à un contenu et une philosophie de football bien précise, puis après par rapport à des résultats. Donc c'est un championnat, aussi bien en 19 ans, qui est assez aléatoire parce que on n'a pas toujours la même équipe déjà, c'est variable, on a du temps de jeu à donner à certains joueurs aussi pour pouvoir les évaluer, donc on est dans la compétition, mais Ça m'est arrivé déjà avec la CFA 2 l'année dernière. Je crois que l'année dernière, j'avais utilisé 45 joueurs en CFA 2. Cette année, je dois être entre les 17 ans que j'ai pu promotionner et mon groupe de 19 ans, j'ai dû utiliser 28 joueurs. Donc, faire de la compétition en utilisant 28 joueurs, c'est difficile. Mais bon, on a fait quand même un bon championnat. On a battu les grosses écuries cette année. On a perdu aussi contre elles. On a battu Saint-Etienne, on a battu Monaco, on a battu Nice. On n'a pas perdu encore contre Montpellier, donc il y a encore le match retour. Mais puis on a fait des bons matchs. J'ai pris beaucoup de plaisir. Voilà. Donc non, c'est une bonne saison. Aujourd'hui, puisqu'on parle de compétition, si par rapport à le nombre de points et notre classement, surtout par rapport au nombre de points, on serait premier dans les trois groupes. En regardant, donc c'est que Montpellier est vraiment très fort cette année aussi.
Oui. Voilà. On rappelle, 12 victoires, 3 matchs nuls, 3 défaites pour les 19 ans du TFC et une seconde place pour le moment. Et il n'y a pas qu'un championnat où ça tourne puisque vous êtes toujours en lice en Coupe Gambardella, 8e de finale à domicile contre Ajaccio dans 2 semaines et l'occasion de passer en quart. Là aussi, c'est une très très belle aventure.
Oui, bah une très belle aventure comme ils ont pu connaître, enfin certains joueurs ont pu connaître il y a 2 saisons, comme ils s'étaient fait éliminer par Sochaux. Moi, j'ai connu la première saison en allant en quart de finale, c'est-à-dire dans la saison 2012-2013 en perdant à Sedan. Mais voilà, c'est une compétition qui est attrayante, qui est motivante. Voilà. Donc j'espère que qu'on va aller le plus loin possible. Pour l'instant, on fait un parcours très intéressant, même si on a rencontré 2 équipes amateurs, mais il faut les passer les tours, comme on dit. Donc il y a ce match de 8e contre Ajaccio qui va être palpitant. Voilà. Donc déjà on a l'avantage de recevoir, mais ça va être un match très intéressant. Voilà.
Est-ce que vous vous attendiez à faire un tel parcours, que ce soit en championnat ou en coupe?
Cette année, oui, je pense qu'on a un effectif quand même assez complet. Quand j'ai l'équipe entre guillemets en complète, c'est-à-dire que je récupère les joueurs qui jouent régulièrement avec la CFA 2, ou la N3, pardon. J'ai une équipe compétitive, voilà. Après, il y a des équipes qui se sont fait battre au pénalty ou contre des équipes amateurs dernièrement. Donc il y a le tirage au sort qui est à prendre en compte. Pour l'instant, on a eu un tirage au sort favorable, même si on a joué quand même Montpellier, les tenants du titre, et Montpellier qui est aussi premier dans le championnat. Donc c'est une bonne perf. Le week-end, il y a 15 jours, on a été gagné à Côté Marty, le club de Côte-Bleue. Donc c'était un tirage favorable, mais si on a joué à l'extérieur, on a gagné 15-0. Mais on s'aperçoit que chaque match est difficile à gagner, à marquer le but de plus que l'adversaire pour pouvoir se qualifier. Donc non, j'ai une équipe. On a une équipe aujourd'hui. Il y a des gros qui sont tombés aussi, mais bon, le match d'Ajaccio ne va pas être facile. On verra tout ça dans 15 jours.
Et vous les connaissez bien, en plus Ajaccio, pour les avoir joués en championnat cette année, je crois qu'avoir battu 2 fois.
Exactement. On les a battus 5-1 à la 3e journée de championnat. Et on a été dernièrement les battre à Ajaccio 2-0. Voilà, donc j'avais pas du tout la même équipe que j'aurais en Gambarde. Et eux, peut-être aussi, ils n'auront peut-être pas la même équipe qu'en championnat en Gambarde la semaine prochaine. Voilà. Donc. Et puis, les matchs de Coupe Gambardella, comme les matchs de Coupe de France, c'est des matchs avec un autre état d'esprit, une autre mentalité. Ça n'a rien à voir avec le championnat. Donc, on dit toujours qu'il y a un favori sur ce genre de match, oui. Mais quand on est, par exemple, pour l'exemple de Ajaccio, je pense que c'est du 50-50. Voilà. Donc, il va falloir être très, très bon pour battre Ajaccio et passer ce tour.
Et avant Ajaccio, il y a un petit clin d'œil du destin, Jean-Christophe, puisque votre prochain match de championnat, c'est dimanche prochain contre l'OM, quelques heures avant le match des 17 et celui des pros contre ce même adversaire marseillais. Alors on espère la passe de 3 dimanche prochain.
Bah oui, ça serait une bonne chose, oui. C'est le calendrier un peu spécial, puisque les 3 équipes de l'OM se déplacent à Toulouse. Voilà, même le club a voulu à un moment donné faire. Une journée TFC-OM en décalant les matchs, c'est-à-dire ce qui était prévu, c'était que les 17 ans jouent à 15h ou 16h au stadium, que les 19 ans enchaînent, et puis que les pros enchaînent bien sûr à 21h. Et ça n'a pas pu se faire puisque l'OM vient, euh, veut jouer à 11h les deux matchs, 17 ans, 19 ans. Donc, mais bon, c'est vrai, c'est bizarre de voir les trois équipes de l'OM se déplacer le même jour, au même endroit et en même temps. Voilà.
Alors pour revenir, Jean-Christophe, sur la CFA2 que vous coachiez l'an dernier, elle est leader de N3 avec seulement une défaite au compteur. Là aussi, un très beau parcours et en plus du vôtre en 19, le symbole d'une formation qui brille au TFC.
Oui, puis il y a les 17 ans qui sont premiers, qui ont fait un sans faute pratiquement, puisqu'ils sont qu'à une défaite. Donc ils ont été longtemps invaincus et ils ont aussi battu toutes les équipes professionnelles de leur groupe, Monaco, Nice, Marseille. Voilà. Donc non, il y a du bon travail. Je pense qu'il y a du bon travail effectué au sein de formation. C'est pas d'aujourd'hui. Nous, ce qu'on espère, bien sûr, c'est que la réserve, qu'on aille plus loin possible en Gambardella et que la réserve puisse monter. Ce serait intéressant aussi pour continuer dans notre projet de formation à ce que les joueurs évoluent à un plus haut niveau le week-end parce que c'est intéressant. La N2 est intéressante. Mais bon, le championnat est loin d'être fini aussi de ce côté-là. Donc, on va croiser les doigts pour ça et que la N3 aille au bout de ses ambitions. Voilà.
Bon, Jean-Christophe, en tant qu'entraîneur d'une équipe du TFC, on ne peut pas ne pas vous demander votre opinion sur la saison de l'équipe première qui est 17e à 10 journées de la fin. Premier non relégal avec un point d'avance sur la zone rouge. Le maintien, on y croit dur comme fer.
Oui, bien sûr qu'on y croit parce que déjà, l'équipe ne perd plus. Déjà. Donc ça, c'est déjà un point positif. Après, pour avoir vu le match contre Metz, il n'a pas manqué grand-chose pour ramener les trois points. Bien sûr qu'on est tous derrière. On espère que le club va se maintenir. Ils ont les moyens, ils ont l'équipe pour se maintenir. Donc, je ne me fais pas trop de soucis par rapport à ça. Il suffit que la roue tourne du bon côté pour que l'équipe puisse enchaîner sur des meilleurs résultats. Enfin, des résultats, aller chercher des victoires.
Vous étiez déjà au TFC lors de la fameuse remontada de 2016 avec le maintien arraché à Angers. Est-ce que c'est justement tout confondu, c'est votre meilleur souvenir footballistique, là j'imagine en tant qu'ancien joueur et entraîneur du club, ça a mis les frissons
Ah oui, non, en plus j'ai eu le privilège de quand Pascal Duprat est arrivé, avant qu'il arrive, Mika Debev m'avait demandé de venir travailler avec lui sur une semaine avec les professionnels parce que Domi Arribagé avait arrêté. Donc j'ai eu le privilège de voir l'arrivée de Pascal Duprat et de travailler pendant trois semaines avec eux parce qu'après Pascal a eu son malaise cardiaque. Donc j'avais fait le match avec les pros à Marseille avec Mika. Donc j'ai eu le privilège de les côtoyer au quotidien et de voir l'évolution et de préparer la remontada. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui a été extraordinaire. Je ne sais pas si ça a été vu déjà dans le football, ce qui s'est passé. Mais voilà, non, c'était vraiment c'est inoubliable ce que le club a vécu. Et en étant proche du terrain, c'est vrai qu'on a vécu des grandes émotions. Voilà.
Bon, et bien on espère le même dénouement cette année pour le TFC. Merci Jean-Christophe. Alors, on va rester ensemble, Jean-Christophe. Voilà, pour des questions un petit peu plus légères, voilà, c'est du tac au tac. On va voir, on va tester un petit peu vos goûts. Jean-Christophe, si je vous demande Barça ou Real ?
Barça.
OM ou PSG ?
PSG.
Bayern ou Dortmund ?
Bayern.
Vicente Lizarazu ou Roberto Carlos ?
Vicente.
Benjamin Mendy ou Leivin Kurzawa ?
Je veux dire Mendy.
Paolo Maldini ou Javier Zanetti ?
Maldini.
Philippe Lahm, c'est le meilleur latéral de l'histoire ?
Oui, je pense aussi, oui. Ouais.
Christophe Revault ou Alban Lafont ?
Je veux dire Alban Lafont.
Oui, d'ailleurs, petite parenthèse, question qu'on ne vous a pas posée parce que c'est vrai qu'il a gravi les échelons tellement vite. Vous l'avez eu sous vos ordres, Alban Lafont ?
Oui.
Oui ?
Je l'ai vu arriver. Je l'ai eu en 19 ans quand il était 17 ans et avec la CFA2 aussi, pas beaucoup parce qu'il est monté rapidement chez les pros.
Il a fait un match en 19, un match en CFA2 et après
un peu plus, ouais, mais bon, non, mais bon, c'est vrai que bon, c'est fulgurant ce qui lui arrive, mais bon, j'ai eu l'occasion de le côtoyer sur les terrains, à l'entraînement, etc. Mais pas tant que ça non plus, voilà.
D'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à ça. Je me souviens l'année où il était introduit donc, en tant que titulaire en équipe première. Au tout début de saison, il se blesse avec la réserve en match amical
contre Marseille.
Et après, son justement, plus clin d'œil du destin aussi, son premier match de reprise, c'était contre Marseille en U17, où il fait un match exceptionnel. Match. Voilà. Et après, bah, voilà, après, on connaît la carrière qu'il a maintenant. Et...
Moi, je ne connaissais pas Alban Lafont. Enfin, je ne suis pas spécialiste des gardiens, déjà. Mais et c'est vrai que ce match de Marseille en 17 ans, où le TFC avait gagné 3-1, je crois, il avait sorti un match du rarement vu au niveau des arrêts qu'il a pu faire. Et c'est là j'ai vraiment vu la qualité de ce garçon, de ce gardien. Et c'est vrai que 2 mois après, il est passé rapidement chez les pros. Donc voilà, ascension fulgurante, comme on dit.
Alors on va monter un petit peu plus sur le terrain. Si je vous demande Johan Elmander ou André-Pierre Gignac.
Oh, les deux, j'ai apprécié les deux. Parce que j'étais à l'époque dans les tribunes, parce que j'étais pas au TFC encore. C'est difficile, mais je ne vais pas me prononcer parce que les deux ont marqué un peu l'histoire du TFC aussi. Ils avaient des qualités différentes, certes, mais c'est des joueurs qui étaient généreux sur le terrain, combatifs, et qui ont permis au TFC de faire les saisons qu'ils ont pu faire à l'époque, quand ils ont marqué le nombre de buts que les deux attaquants ont pu marquer. Donc j'ai resterai sur les deux joueurs.
Bon, joker accepté. Pep Guardiola ou José Mourinho ?
Guardiola.
Didier Deschamps ou Zinedine Zidane en tant que coach?
Deschamps.
Rugby ou basket?
Rugby.
Tennis ou hand?
Tennis.
Roger Federer ou Rafael Nadal?
Federer.
Thé ou café?
Café.
Chocolatine ou pain au chocolat?
Chez moi, on dit pas au chocolat, donc pain au chocolat.
Pizza ou McDo?
Pizza.
Mer ou montagne?
Montagne.
États-Unis ou Australie?
J'ai pas été dans les deux pays, donc je vais dire États-Unis.
Italie ou Espagne?
Espagne.
Blonde ou brune?
Blonde.
Jean-Christophe Debut, coach de la première du TFC un jour, possible ou non?
Là, c'est non.
Non.
Aujourd'hui, non, ou enfin. Aujourd'hui, je suis à la formation, je suis très bien à la formation. Donc voilà, donc j'ai pas, enfin, bien sûr, on est tous ambitieux quand on fait ce métier, mais j'apprécie et j'ai le privilège d'être au TFC, surtout le privilège d'encadrer une génération de joueurs intéressants. Voilà, donc il faut apprécier. Enfin, j'apprécie et. Donc voilà, donc je suis très bien où je suis actuellement. Voilà.
La vidéo dans le foot, oui ou non?
Oui.
La France, elle peut la gagner cette Coupe du Monde?
Je pense.
Bon, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Christophe. Et avant de passer au quiz, une petite pause musicale avec Love is in the Air de John Paul Young.
Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name. Love is in the air, Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're an illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in, and you're there when I reach out for you. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're an illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in, and you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes.
Love is in the air de John Paul Young. Pourquoi cette musique, Jean-Christophe ?
Parce que ça me rappelle un peu ma jeunesse. Puis je l'ai entendu l'autre jour en allant au stadium. Et puis voilà.
Bon, très bien. Est-ce que ça s'est suivi d'une victoire du TFC, cette musique, quand vous êtes allé au stadium ?
Non, c'était pour avoir un entraînement. Donc, ouais.
Bon, et bien peut-être que si vous la remettez dimanche, il y aura une victoire. Et c'est un supporter de l'OM qui vous dit ça. Donc je suis assez conciliant ce soir. Bon, messieurs. Je vous propose de passer au fameux quiz, 10 questions, voilà. Tout simplement, lorsque vous pensez avoir la bonne réponse, vous dites votre prénom, vous êtes prêts ?
C'est bon.
Alors messieurs, cet attaquant a marqué le 3000e but de son équipe
Fabien
ce week-end.
Fabien Balotelli.
Ça démarre très fort contre Lille, Mario Balotelli a ouvert le score et inscrit le 3000e but de Nice en Ligue 1. C'est le 7e club qui parvient à réaliser une telle performance. Fabien semble en forme. Il reste 9 questions. Il y a la possibilité de remonter. Quadruplé pour lui.
Fabien, non ? Griezmann ?
Non.
Ouais. Gomis.
Oui, exactement. En une mi-temps, Bafé Gomis, il a inscrit un quadruplé avec Galatasaray, l'ancien Marseillais. On est à 24 buts en 23 matchs de championnat.
Il est 6-0 à la mi-temps, je crois.
Oui, ils ont été...
Et Gomis, d'ailleurs, je crois qu'il en est à 7 buts en 2 matchs.
Ah oui,
il a dû mettre un triplé la semaine d'avant et 3 et 4 buts là.
Il est dans une forme absolument incroyable. La Panthère qui a manifestement parfaitement réussi.
Un partout, c'est ça en,
oui, un partout. Troisième question, messieurs. Alors, eux, pour le coup, le pressing, ça leur fait vraiment pas peur. Ça s'est passé en Angleterre.
Le quoi ?
Le pressing, ça leur fait vraiment pas peur.
Fabien, peut-être Manchester City, mais...
Oui. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez...
Bah, c'est peut-être le match à Arsenal.
Exactement.
Sur le troisième but ou ben
voilà.
C'est ça.
Voilà, exactement. C'est City qui s'est encore une fois magnifiquement illustré. Alors voilà, il faut vraiment voir les images. Ils sont mis sous pression dans leur camp. Et les hommes de Pep Guardiola, ils ont enclenché la machine collective, une vingtaine de passes, et ils se sont retrouvés dans la surface des Gunners pour inscrire le troisième but grâce à Sané. Voilà, bon, décidément, ils semblent vraiment intouchables. Vous avez répondu Pep Guardiola tout à l'heure.
Oui.
Ouais. Bon, j'imagine que vous êtes fan du jeu qu'il propose à Manchester.
Exactement.
City. Déjà à Barcelone, c'était
Barcelone,
quelque chose.
Barcelone et puis à Manchester City aussi, oui. Non, c'est vraiment c'est le meilleur technicien à mon avis.
Ouais, il est vraiment en train de faire quelque chose d'extraordinaire à Manchester City, Pep Guardiola. 2-1 pour Fabien. Quatrième question. Messieurs, moi, quand je rentre chez moi, je joue à la PlayStation. Quel joueur a prononcé cette phrase?
C'est un joueur de Ligue 1?
C'est un joueur de Ligue 1. On lui a posé une question.
Du TFC?
Non. On lui a posé une question, il a dit, écoutez, moi, quand je rentre chez moi, je joue à la Play. C'est un défenseur.
Ah, c'est... non. J'allais dire Adil Rami, mais non, il a d'autres choses à faire, mais bon. C'est Rami.
Ah oui. C'est Rami. Ah. C'est Adil Rami qui a été questionné sur son avis sur la cheville de Neymar à l'issue du premier classique du championnat entre le PSG et l'OM. Et le défenseur a fait comprendre que cela ne représentait qu'un très faible intérêt pour lui, qui préfère la manette aux réseaux sociaux. Voilà, mais peut-être qu'entre deux parties, il fait...
Non, parce qu'il a un autre jeu à la maison aussi.
Oui, voilà. Comme diraient certains, ça ne nous regarde pas. Mais voilà, en tout cas, c'est bien lui qui a prononcé cette phrase, voilà, la question classique vis-à-vis de la cheville Neymar. Est-ce que vous jugez que les médias français en font trop sur Neymar?
Enfin... Même si on dit oui, ça ne changera pas grand-chose, voilà, donc... Je pense que les médias ont besoin de Neymar, Neymar a besoin des médias, donc ça fait partie du jeu, entre guillemets, voilà. Donc,
c'est quelque chose qui fait vendre, en fait. Malheureusement, moi, je trouve que ça fait beaucoup, parce que dans toutes les situations, on a vu du Neymar par-ci, Neymar par-là, c'est limite comme si c'était Martine à la plage. Martine, tout ça, c'est un peu la même chose avec Neymar pour sa blessure, pour ce qui se passe aussi. Mais bon, c'est l'effet maintenant des réseaux sociaux et tout ça aussi en même temps.
Cinquième question. Messieurs, alors il y a un club qui a déjà porté 7 maillots différents depuis le début de la saison.
Fabien, c'est le FC Cologne.
Oui, voilà, c'est Cologne. Selon la BBC, alors être supporter du dernier de Bundesliga, pour le coup, ne coûterait pas moins de 475 euros. Voilà. Donc ils ont eu 7 tuniques différentes. Ils ont dû en utiliser 2 contre Leipzig et Augsbourg parce qu'ils avaient la même couleur de maillot. Donc voilà, bon... Ça les dessert un petit peu parce que les partenaires de Cosiello sont derniers. Mais voilà, 7 maillots. Heureusement pour le TFC, il y en a moins parce que c'est vrai que ça commence à revenir un petit peu cher après. Sixième question, messieurs. Alors, il y a Michy Batshuayi qui s'est plaint de sa note sur FIFA 18. Mais c'est pas le seul attaquant. Il y en a un autre qui s'est plaint de sa note sur FIFA 18, qui joue en Angleterre.
Un attaquant.
Oui.
Parce qu'il y a Benjamin Mendy qui avait trouvé bizarre aussi.
Oui.
Giroud?
Non.
Qui joue dans le même club que Batshuayi?
Qui ne joue pas dans le même club que Batshuayi puisque cet attaquant joue en Angleterre. Il est de la même nationalité que Batshuayi.
Ah donc ça doit être Lukaku alors?
C'est Lukaku. Ouais. Voilà, c'est Lukaku qui a critiqué la note attribuée sur la célèbre simulation de ballon rond. Alors il a dit, je cite, « La vitesse est bonne, mais l'accélération n'est que de 70. Je pense que vous avez vu mon sprint à la fin du dernier match. Est-ce que vous pouvez modifier ça ?»
Il n'a pas très vite, hein, Lukaku. Hein. Pour l'avoir vu au stadium pour le match de l'Euro, c'est un petit peu lent.
C'était Belgique-Hongrie, non?
C'est ça.
Oui, c'est ça. Voilà, belle victoire pour les Diables Rouges ce soir-là. Alors, messieurs, alors pas ce week-end pour le coup, mais... Jeudi soir, il me semble que... Oui, c'était jeudi soir. En Serie A, il y a une équipe qui a vu sa série de 10 victoires consécutives tomber.
Alors, si c'est une équipe de Serie A, ça doit être Naples.
Oui,
Naples. C'était samedi.
C'était contre la Roma, c'était jeudi soir, il me semble.
Non, samedi. Ils ont pu jouer samedi, le décès est arrivé dimanche, donc
c'était
ils ont annulé
samedi,
les matchs.
C'était Naples-Roma, oui, bien vu, eh bien vu Fabien, pour le coup. Oui, ils se sont inclinés 4-2 contre la Roma à l'issue d'un match spectaculaire. Alors, ils ont empoché 30 points sur 30 possibles, mais les partenaires de Mertens ont chuté au San Paolo. Ils sont à portée de tir de la Juve qui peut leur passer devant. Voilà, et bien évidemment...
Fabien est bon quand même. Hein.
Il est très bon.
Merci.
Il est très bon. Et bien évidemment, la journée s'est arrêtée après le décès et l'annonce tragique de la mort de David Astori, le capitaine de la Fiorentina. D'ailleurs, si vous avez l'occasion, messieurs, de voir l'hommage rendu par Gigi Buffon, voilà, il a encore montré que c'était une véritable légende. Messieurs, huitième question. Ben, eux, pour le coup, maintenant, ils sont à 13 points de la Champions League. Un grand club qui ne va vraiment pas bien du tout.
Fabien, Arsenal ?
Oui, c'est Arsenal. C'est évidemment, il est dans une forme olympique, Fabien. C'est Arsenal qui a quasiment dit adieu à tout espoir de disputer l'arène des compétitions continentales, puisque les Gunners ont perdu 4 de leurs 5 derniers matchs et accusent 13 points de retard sur les Spurs de Tottenham. Ça semble plus que jamais la fin, même pour Arsène Wenger. Ça fait quand même depuis 1996 qu'il est en poste. Ça semble être l'une de ses dernières saisons, là, Jean-Christophe.
Oui, peut-être. Je ne sais pas. Je sais pas.
Non, peut-être que moi, en tant que coach, comment est-ce que vous...
Ouais, la durée de son contrat, je ne sais pas. Voilà,
Il lui reste un an de contrat.
Il lui reste un an de contrat. Arsène Wenger, il est de 55, donc il a aujourd'hui...
63 ans,
voilà, donc peut-être que s'il y a un nouveau challenge pour lui, ce serait intéressant, je ne sais pas.
Avant-dernière question, messieurs, c'est un chiffre, 27. Donne le chiffre 27.
L'heure ?
Non, ça aurait pu, mais non. C'est en Espagne, 27.
Ah, non.
27 secondes, un but, non ?
Non.
Ah, ça doit être par rapport au Barça ? L'histoire du pénalty, qui ça fait 27 mois qu'il n'avait pas concédé de pénalty. Je sais que ça fait très longtemps. Donc...
Non.
27 en Espagne.
Le club est bon, mais pas l'info.
Donc, c'est le Barça.
Nom de but de Messi, non, non.
Non.
Non,
non, non, c'est à titre collectif.
À titre collectif.
Ils ont un statut particulier, les Barcelonais. Ce sont les seuls en Europe.
Par rapport aux socios, parce que c'est pas ça. Voilà.
C'est une série, 27.
27 matchs invaincus à domicile, peut-être ?
Non, c'est presque ça, mais c'est pas ça.
Aucune idée.
Langocha ?
Ouais.
Langocha.
Eh bien, tout simplement, 27 journées de championnat et invaincu. Voilà, les Catalans, hier, ont repoussé leur dauphin, l'Atlético, à 8 longueurs après leur victoire 1-0, grâce, pour le coup, à un nouveau coup franc de Léo Messi. Messieurs, dernière question. Alors, pour le coup, à lui, et c'est un défenseur, alors ne lui donnez jamais de GoPro. Hein.
Jamais deux ?
Jamais de GoPro, la caméra à première personne. C'est un joueur qui... réputé pour faire le pitre, on lui a donné une GoPro et voilà. Un joueur qui est actuellement blessé et qui, bon...
Mendy ?
Oui, voilà, Benjamin Mendy, qui s'est encore illustré, donc il est toujours en rééducation. Il a repris l'entraînement collectif d'ailleurs. Après sa blessure au genou, le latéral Citizen s'est emparé d'une GoPro pour faire vivre la finale de coupe entre City et Arsenal. Voilà, donc encore une fois des images que je vous conseille d'aller voir, parce que ce joueur quand même incarne la rigolade et la joie de vivre comme on en demande beaucoup. Mais messieurs, c'est une victoire pour Fabien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Quentin.
Merci Jean-Christophe d'avoir accepté cette invitation. Et puis, que de bonnes choses avec le TFC, le maintien pour l'équipe première. Et puis, pourquoi pas une belle aventure encore en Coupe Gambardella. La bonne aventure est déjà belle, mais si elle peut durer encore un peu plus longtemps.
On l'espère. Tout faire pour que ça arrive.
Bon, bien, on croise les doigts. Merci beaucoup à Jean-Loup Arzac pour la réalisation. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la 16e et avec messieurs. Le retour de Romain Arnaud et Léo Moulinier qui rentreront tout fraîchement de la capitale pour cette 16e édition. Ce sera un vrai plaisir de les retrouver, de retrouver l'équipe au complet. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à très bientôt sur Occitanie Première.